Genèse 9, et nous allons lire encore une fois les sept premiers versets de ce chapitre. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Mais aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie, et je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque homme de la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Demain, vous le savez, c'est la rentrée des classes. Des milliers d'élèves se trouveront dans une nouvelle école, avec de nouveaux profs. Et au début de l'année scolaire, une des premières choses que fait le prof ou l'institutrice, l'instituteur, une des premières choses qu'il doit faire, c'est d'expliquer les règles. Avec 30 enfants de bas âge dans la classe, je ne peux pas imaginer comment c'est pour la maîtresse à la maternelle. Mais on a besoin de règles. On a besoin de structures. Avec des centaines d'élèves qui courent à droite et à gauche dans la cour de récréation, il faut des règles. Sans règles, je pense que nous sommes d'accord, la vie est pénible. Sans règles, c'est le plus fort qui domine. Et tant pis pour les autres. Et dimanche dernier, nous avons vu une rentrée, si vous voulez, ou un nouveau départ pour l'humanité. Dieu décide de tolérer le mal, de ne plus détruire la terre par un déluge ou par un jugement universel. Et au début du chapitre 9, Dieu annonce cette décision à Noé. Dieu agit pour bénir Noé et toute sa famille, et ainsi toute l'humanité. Verset 1, regardez. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils. Dieu bénit. C'est un mot très fort. Dieu agit envers Noé selon sa bienveillance, selon sa bonté, selon sa grâce, son amour. Et comment est-ce que Dieu les bénit? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, comme je vous ai déjà dit, Dieu met en place des structures ou des règles pour le bon fonctionnement de la société, du nouveau monde. Dieu bénit l'humanité, c'est une bénédiction de la part de Dieu quand il met en place des règles et des structures pour vivre ensemble. Dieu sait que s'il va tolérer le mal dans le monde, il faudra mettre en place des structures. Sinon, des créatures ne pourront jamais vivre en paix et en sécurité. Essayez pour un moment d'imaginer la vie sans structure, sans règles, sans loi. Ce serait invivable. On aurait peur de sortir. Dans nos foyers, il y a des règles. À l'école, il y a des règles. Au travail, il y a des règles. Sur les routes, il y a des règles. Dans la société, dans le monde, il y a des règles. Des structures qui jouent un rôle essentiel. Et donc, Dieu bénit le monde quand il donne des normes, des structures. Dieu explique ce qui est nécessaire pour rendre possible la vie dans un monde déchu. Et dans ce passage que nous avons devant nous, je veux voir trois structures ou trois règles que Dieu met en place pour que la société puisse fonctionner. Et la première chose que nous voyons, c'est la famille respectée. La famille respectée. Au verset 1, nous lisons « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Vous vous souvenez peut-être de ce commandement. C'est à peu près On a à peu près le même commandement au verset 7. Dieu répète ce commandement, soyez féconds, multipliez-vous et peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Essayez d'imaginer combien ces paroles de la part de Dieu ont dû encourager et soulager la famille de Noé. C'est la première chose que Dieu dit après le déluge. Noé et sa famille viennent de voir une démonstration énorme de la colère de Dieu contre le péché humain. Ils sortent de l'arche et Dieu va leur parler. Sera-t-il encore en colère? Y aura-t-il encore un déluge? Y aura-t-il encore un jugement? On aimerait bien recommencer, mais est-ce que ça vaut la peine de recommencer la vie sur cette terre? Aurons-nous un avenir sur cette terre? Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il répète le mandat qu'il avait donné à Adam et à Ève. Vous vous souvenez quand il a dit à Adam et Ève dans le chapitre 1? Multipliez-vous, soyez féconds. Et en faisant cela, Dieu dit à Noé et à sa famille, vous aurez un avenir. Je ne vais pas effacer l'humanité une deuxième fois. Vous aurez une nouvelle vie et au centre de cette vie, il y a la famille. Et encore une fois, dans les premiers chapitres du premier livre de la Bible, Dieu souligne l'importance de la famille, des enfants, des parents dans la famille. On lit souvent, je ne sais pas si ça vous a frappé, de Noé et de sa famille, Noé et ses fils, Noé et sa femme et ses fils et leurs femmes. On a entendu cette phrase, on a lu cette phrase beaucoup de fois. 9 fois en 4 chapitres, nous voyons cette phrase. Pourquoi répéter cette phrase à maintes reprises? Pourquoi souligner ça? Dieu veut souligner que dans l'arche, il y avait 4 familles, 4 couples mariés. Parce que Dieu veut souligner l'importance de la famille, un homme et une femme mariés avec leurs enfants. Et Dieu souligne ça. Au début de ce nouveau départ pour l'humanité, Dieu dit que la famille est essentielle au bonheur et au bien-être de la race humaine et pour le bon fonctionnement de la société. La famille, si vous voulez, est une des composantes bénies par Dieu et essentielle dans une société qui fonctionne bien. Je l'ai dit tout à l'heure, le premier commandement donné à Adam et Ève, c'était de créer une famille. Le premier commandement donné à Noé et à ses enfants, après le déluge, c'est de créer des familles. Et la famille est vue comme une bénédiction de la part de Dieu. La famille, pour Dieu, doit être une source de joie, de paix, de bonheur, de bénédiction. C'est ce que Dieu dit ici. Il bénit et tout de suite il dit « Fondez des familles ». Mais quand la famille n'est pas respectée, quand la famille est menacée, qu'est-ce que nous voyons? Quand la structure de la famille commence à s'effondrer, pensez à la souffrance émotionnelle, psychologique, physique, quand la famille ne fonctionne pas comme Dieu le veut. Dieu, d'un côté, souligne l'importance de la famille. Et nous avons déjà vu que Satan, il cible la famille. Il veut attaquer la famille. Dieu veut que les familles se construisent. Satan veut les détruire. Et nous avons déjà vu ça dans les premiers chapitres de Genèse. Satan veut rendre l'humanité malheureuse. Comment est-ce qu'il l'a fait? Comment est-ce qu'il le fait? En attaquant la famille. Et surtout, il vise les familles chrétiennes. Donc, nous devons nous consacrer à prier pour nos familles, à prier pour nos enfants, à prier pour la place, à militer pour la place de la famille dans notre société. Dieu bénit la famille. Satan essaie de la détruire. Et je suis conscient que dans notre Église, il y a des gens qui ont une vie de famille difficile. Je sais. C'est vrai que Dieu bénit la famille, mais pour certains, La vie de famille n'est pas une vie heureuse. Vous n'avez pas l'impression d'être béni dans votre famille. C'est une des conséquences de vivre dans un monde déchu. Vous subissez les attaques de Satan au sein même de votre famille. Le péché rend la vie de famille compliquée et difficile. Et je ne peux pas vous dire que les choses vont s'améliorer, bien que, quoique l'évangile est puissant et l'évangile est capable de transformer n'importe quelle famille. Ça, c'est notre espérance. Mais je peux vous dire que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance dans les familles. Et si vous êtes chrétien, Dieu vous place dans une autre famille. Dieu vous place dans une famille où vous êtes aimé. Vous êtes aimé par des membres d'une famille spirituelle, c'est-à-dire l'Église. Et c'est pour ça que nous essayons d'être comme une famille dans cette Église, pour que ceux qui connaissent pas une vie de famille heureuse, qu'ils puissent se sentir aimés, entourés par des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Et si vous êtes chrétien, vous êtes aussi l'épouse de Jésus-Christ. Vous êtes marié à Jésus-Christ. Vous êtes uni à Jésus-Christ et en lui, vous pouvez connaître l'amour, la joie, la paix, la sécurité. La famille ici-bas ne sera jamais parfaite. Mais Dieu vous a sauvé pour une vie de famille, une famille beaucoup plus large. Une vie de famille heureuse et joyeuse en Jésus-Christ. Lui, c'est l'époux sans faute qui aimera toujours d'un amour parfait. Donc Dieu met en place la structure de la famille, mais il fait aussi dans l'Église, pour les gens qui... On a entendu récemment un jeune Indien qui était là. Et après sa conversion, sa famille lui a dit, c'est fini, vous ne faites plus partie de notre famille. Mais en fait, il a une famille encore plus grande. Il a une famille avec des millions et des millions de personnes. C'est sa famille spirituelle. Donc, la famille respectée. Deuxième chose que nous notons dans ce chapitre, et nous allons passer un peu plus longtemps là-dessus, c'est la vie respectée. Encore une fois, il faut essayer de se mettre à la place de Noé. Noé et sa famille viennent de voir mourir des milliers d'êtres humains et encore plus d'animaux. Et peut-être que Noé aurait pensé que la vie humaine ne valait pas grand-chose. La vie d'un animal non plus. Dieu avait effacé presque la totalité de l'humanité et presque tous les animaux de la terre. Donc une vie humaine, on aurait pu poser la question, une vie humaine vaut combien pour Dieu? Pas beaucoup, il nous semble. Parce que là, il vient de détruire des milliers et des milliers. Mais Dieu veut montrer à Noé et à l'humanité après Noé, à nous, qu'il place une valeur énorme sur la vie et des animaux et de la vie humaine aussi. Et comment est-ce que Dieu fait cela? Verset 2 nous dit que Dieu agit en ses créatures pour leur donner une connaissance innée de la valeur de la vie. Regardez ce que Dieu dit. « Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. » Réfléchissez bien. À cette époque-là, au début de la création, il y avait une bonne relation entre l'homme et les animaux, l'humanité et les animaux. Mais il nous semble que tout cela a changé après la chute. Et réfléchissez aussi. Il n'y avait que 8 êtres humains. Il y avait Noé, son épouse, ses fils et leur femme. Pensez à tous les animaux qu'il y avait. Des animaux plus grands, plus puissants, plus rapides, plus dangereux aussi. Et si les animaux avaient décidé, tiens, là, il y a des êtres humains, on va les manger, ça n'aurait pas été difficile. Mais Dieu sait que l'humanité est en danger et Dieu met, on ne sait pas comment, mais Dieu met dans la connaissance des animaux une crainte et une terreur des êtres humains. Dieu agit pour installer cette crainte de l'homme chez les animaux. Sinon, la vie n'aurait pas pu continuer sur la terre. Si même aujourd'hui, tous les animaux de la terre décidaient d'attaquer les êtres humains, il y aurait du carnage. Mais Dieu agit pour empêcher une telle chose. Et nous voyons dans l'histoire de ce monde le fruit de ce que Dieu fait ici. Les êtres humains ont pu dominer sur le monde des animaux. Et la réalité, c'est que très très peu d'êtres humains sont tués par les animaux. Parce que Dieu a mis en place cette crainte dans la pensée, si on peut dire ça, des animaux. Ça arrive bien sûr qu'il y a des animaux qui tuent des êtres humains, mais relativement peu. Il y a un respect pour la vie humaine. Et puis Dieu dit à Noé que les êtres humains, eux aussi, doivent respecter la vie des animaux. Quand on lit le verset 3, c'est vrai qu'on n'a pas du tout cette impression. Le verset 3 dit « Tout ce qui rampe et tout ce qui vit vous servira de nourriture. » Dieu donne à Noé le droit de manger de la viande. Il paraît que l'homme ne mangeait pas de viande avant ça, et à partir de maintenant, Dieu dit « Vous êtes libre de manger de la viande. » Dieu donne des animaux pour manger. Donc, je viens de dire que Dieu demande à Noé de respecter la vie des animaux, mais s'il peut les tuer pour les manger, ce n'est pas respecter les vies des animaux quand même. Si, Dieu va plus loin. Regardez le verset 4. « Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. » Noé peut manger de la viande, mais pas n'importe comment. Il ne faut pas manger comme un animal sauvage, Dieu dit. Il ne faut pas déchirer la chair d'un animal qui est encore en vie. L'homme doit reconnaître qu'il faut la mort d'une créature à laquelle Dieu a donné la vie si l'homme va manger. Il ne faut pas oublier qu'un animal qui est précieux aux yeux de Dieu, et nous savons que même les moineaux sont précieux aux yeux de Dieu, un animal qui est précieux aux yeux de Dieu doit mourir pour permettre aux êtres humains de manger et de vivre. Tuer un animal, ce n'est pas une petite chose, sans importance. Et Noé doit reconnaître cela en prenant le temps, dit Dieu, de vider l'animal de son sang. Il ne faut pas manger l'animal vivant. C'est quelque chose de solennel. Et dans Deutéronome 12, 23 et 24, nous voyons une des règles les plus importantes pour le peuple de Dieu, je vais le lire. Dieu dit « Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est la vie, et tu ne mangeras pas la vie avec la chair, tu ne le mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. » La vie des animaux est précieuse, dit Dieu, et parce que ce n'est que Dieu qui puisse permettre à l'homme de manger leur viande. Soyons honnêtes, qui parmi nous prend le temps de réfléchir à ces choses comme nous achetons des cuisses de poulet et un escalope de veau? Nous ne passons pas une minute en baissant la tête en pensant « Tiens, il y a des poulets qui ont dû mourir pour que moi je puisse manger ça. » Non, la viande vient tout emballée, on va chez Leclerc, c'est là, on achète, on met dans le four, on met dans le poêle et on mange. Mais Dieu veut que son peuple reconnaisse que pour que leur vie puisse continuer, un animal a dû mourir. Une vie est ôtée pour que nous puissions continuer à vivre. Et un commentateur écrit sur ce passage, et je pense qu'il a raison, que Dieu veut montrer l'importance du sang dans la vie du peuple de Dieu. Au fur et à mesure, dans sa révélation, Dieu expliquera davantage la place du sang. Et cette interdiction de manger du sang des animaux, ça prépare les peuples pour mieux apprécier le sang de l'agneau, le sang même de Jésus, versé pour expier leur péché. Ce n'est pas une petite chose de verser le sang d'un animal. Et ce que Dieu dit ici, ça prépare son peuple pour mieux apprécier qu'un être pur et innocent doit mourir pour qu'il puisse vivre. son peuple. Votre vie est possible grâce à la mort d'un innocent. Je pense qu'il y a des... on peut lire ça dans ce texte. Mais Dieu va encore plus loin. Car s'il faut respecter la vie des animaux, à combien plus forte raison faut-il respecter la vie humaine? Si le sang des animaux est sacré, à combien plus forte raison le sang humain? Et c'est ce que Dieu explique au verset 5. Mais aussi, il dit, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie, je le réclamerai à tout animal et je le réclamerai à chaque homme, la vie de l'homme qui est son frère. Et au verset 7, Dieu explique pourquoi le meurtre, tuer un homme, est grave. Car Dieu a fait l'homme à son image. Dieu dit, si un homme ou un animal tue un être humain, sa vie, lui, sera ôtée. Il y a un argument très fort ici pour la peine de mort. Je ne vais pas ouvrir cette parenthèse-là, mais il y a un argument très fort pour la peine de mort dans ces versets. Dieu grave dans le cœur de chaque être humain et de chaque animal que tuer un animal, tuer un être humain, tuer quelqu'un créé à l'image de Dieu, c'est un mal terrible. Dieu donnera le commandement plus tard dans sa révélation, mais il le fait déjà ici, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Et quand un être humain prend la vie de quelqu'un, il viole une loi que Dieu a écrite dans son cœur. Il fait quelque chose et il sait que dans son cœur, que c'est un très grand mal. Tuer quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu, c'est une attaque contre Dieu lui-même. Tuer un homme, c'est usurper la souveraineté de Dieu sur la vie. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui ôte la vie. Ce n'est pas les êtres humains. Quand le roi David, vous vous souvenez, il a tué Uri. Et qu'est-ce qu'il a prié quand il a confessé son péché? Il a dit, j'ai péché contre toi seul. Mais on pourrait dire, mais il avait péché contre Uri en le tuant. Non, parce que c'était Dieu qui avait protégé Uri en mettant ce commandement autour de lui pour dire « Tu ne tueras point ». Donc c'est une attaque contre Dieu même. Il dit « J'ai fait ce qui est mal à tes yeux ». Et Dieu sait ce dont l'homme est capable. N'oublions pas l'histoire de Caïn. Dieu ne l'a pas oublié. Et c'est sans doute pourquoi il dit au verset 5 « Je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère ». Dieu sait qu'un frère est même capable de tuer son frère. N'oublions pas que le monde avant le déluge était rempli de violence. Les mecs, les grands qui étaient redoutables, les guerriers qui étaient redoutables. Dieu sait où la haine dans le cœur de l'homme peut mener. Et mes amis, la tuerie que nous voyons dans le monde aujourd'hui, la tuerie du XXe siècle, ça nous montre à quel point l'homme se rebelle contre Dieu. Le massacre des bébés dans le ventre de leur maman montre que Satan a persuadé l'humanité que la vie humaine ne vaut rien. La vie humaine est un simple déchet qu'on jette dans la poubelle. Ça montre le mépris total pour le caractère sacré de la vie humaine et surtout le mépris total pour le caractère de Dieu. La vie, dit Dieu, est sacrée. Et avant d'aller plus loin, peut-être que vous êtes en train de dire, bah, tout ça c'est intéressant, mais personne ici n'a tué personne. Et j'espère que c'est vrai que personne ici n'a jamais pris la vie d'un autre. Mais avant d'aller plus loin, rappelons-nous des paroles de Jésus dans Matthieu 5. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Là, on est d'accord, c'est une bonne chose. Mais moi, dit le Fils de Dieu, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Et celui qui dira à son frère, Raca, c'est une insulte, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dit insensé, celui qui insulte son frère, que lui, celui qui est en colère contre son frère dans son cœur, qu'est-ce qu'il mérite? Mérite d'être puni par le feu de la gêne, dit Jésus. Combien de meurtres avez-vous commis dans votre cœur? Vous dites, bon, c'est pas la même chose. Jésus dit si. Quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous ne prendrez, moi je ne prendrai jamais un pistolet, un couteau pour tuer, pour poignarder. Je ne ferai jamais ça, je ne pourrai pas. J'espère. On ne sait pas. Mais, avec mes pensées, vous avec vos pensées, avec vos paroles, avec mes paroles, peut-être même tous les jours, nous tuons. Tuons des membres de la famille, tuons des collègues, tuons nos enfants, nous tuons même des gens à l'église, avec des pensées, avec des paroles. Dieu dit, tu ne tueras point, même pas dans ton cœur. Pas avec tes paroles non plus. La famille est respectée, la vie est respectée. Et la troisième, la dernière chose, nous voyons que c'est le gouvernement établi. Verset 6, nous lisons, « Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. » Ici, Dieu explique ce qui devrait arriver à celui qui verse le sang qui tue un être humain. Dieu établit un ordre, un système d'ordre public, un système judiciaire pour le bon fonctionnement de la société. Il établit une structure de justice pour appliquer sa loi. Sans cette structure, il y aurait de l'anarchie. Sans cette structure, des méchants pourraient tuer sans la moindre peur d'être arrêtés et punis. Et Dieu dit ici que ceux qui font le mal doivent être punis. Ils doivent être poursuivis en justice. On lit le mot « réclamer » qui est utilisé trois fois dans verset 5. C'est un mot, c'est le langage pénal, le langage judiciaire. Dieu dit ici que le crime de meurtre, il veut que le crime de meurtre soit puni par la mort. Il faut qu'il y ait une structure dans la société pour arrêter, pour juger et pour punir des malfaiteurs. Dieu donne sa propre autorité à des êtres humains pour juger et pour punir le mal. Ils feront ça au nom de Dieu et à la place de Dieu. Dieu n'agira pas en jugement à chaque fois qu'on commet un crime, à chaque fois qu'on commet un péché, mais il donne cette responsabilité aux autres, aux autorités qu'il a établies ici. Et nous voyons que la société a bien besoin de structure de justice pour gouverner et Dieu la met en place ici. L'apôtre Paul la confirme dans le passage que nous avons lu en Romains 13. Le magistrat, dit Paul, est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Il porte l'épée. Qu'est-ce qu'on fait avec une épée? Encore un argument pour la peine de mort. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Et voilà la naissance du premier gouvernement dans le monde, des premières forces de l'ordre, le premier système judiciaire. Et c'est vrai, n'est-ce pas, que c'est critiquer nos dirigeants, critiquer notre gouvernement, critiquer la police, c'est très à la mode, c'est très facile. Mais essayez pour un moment d'imaginer un monde, essayez d'imaginer comment serait la vie sur la Terre s'il n'y avait pas de gouvernement, s'il n'y avait pas de police, s'il n'y avait pas de système judiciaire. Essayez d'imaginer si chacun était libre de faire ce qu'il veut, de tricher, de tuer, de voler. c'est facile de critiquer la présence des radars sur les routes. Moi, je suis content que les radars soient là. Parce que si ça empêche les gens de rouler comme des fous, moi, je suis content. Je peux rouler en tranquillité, en sécurité. Et on critique, je parle du monde de sport, on critique souvent l'arbitre. Bah, l'arbitre a fait ceci, l'arbitre a fait cela. Grâce à l'arbitre, l'Irlande du Nord n'était pas à la Coupe du Monde. Et tout ça. Mais moi, je n'ai pas envie de regarder un match de foot sans arbitre. Je ne fais pas confiance à l'honnêteté des joueurs qui trichent tout le temps. On a besoin des forces de l'ordre, des arbitres, pour vivre paisiblement. Vous voyez, c'est pour notre bien que Dieu met en place des règles et les autorités pour les appliquer. Sans ces structures, ce serait du carnage, la loi du plus fort. Et Dieu qui connaît le cœur humain, qui sait ce dont l'homme est capable, dans sa bonté et dans sa grâce, il met en place un système de gouvernement et de justice pour protéger les faibles, pour protéger les enfants, pour protéger les minorités, pour protéger les démunis. Donc au lieu de critiquer, au lieu de râler, soyons reconnaissants pour les autorités que Dieu a mises en place. Paul écrit encore aux Romains que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Peut-être que vous demandez, est-ce qu'on n'a jamais le droit de ne pas obéir aux autorités? Dans quelles circonstances est-il légitime de désobéir aux autorités? Il y a des gouvernements corrompus, il y en a beaucoup. Il y a des gouvernements, des dirigeants iniques, encore, et malhonnêtes, il y en a beaucoup. Que faire dans ces cas-là? Est-ce qu'on peut désobéir? Et je pense que si les autorités nous demandent de faire ce qui est contre l'enseignement de la parole de Dieu, nous devons d'abord obéir à la parole de Dieu, comme ont fait les apôtres. Quand ils ont dit, vous ne devez plus prêcher au nom de Jésus, bah, est-ce qu'il vaut mieux qu'on obéisse à Dieu ou à vous? Désolé, on va continuer à prêcher. Donc, là où le gouvernement nous demande de faire ce qui est contre la parole de Dieu, nous sommes libres de désobéir. Nous devons d'abord obéir à Dieu. Mais autrement, je ne connais pas de règles en France, je ne connais pas de loi en France qui nous oblige de désobéir. Peut-être qu'il y en a. Mais je n'ai jamais senti obligé d'agir contre la parole de Dieu, si vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, en toute chose, nous nous soumettons aux autorités. Au volant, nous nous soumettons aux autorités. En déclarant les revenus, nous nous soumettons aux autorités. En compostant le ticket d'entrain, nous nous soumettons aux autorités. En téléchargeant sur Internet, nous nous soumettons aux autorités. À l'école, nous obéissons aux autorités. En toutes choses, dit Paul. Respect de la famille, respect de la vie, respect des autorités, du gouvernement. Voilà ce que Dieu met en place pour le bon fonctionnement de son monde. Et ces trois choses reflètent la bonté, le caractère, la sagesse, la justice de Dieu. Et ces trois choses rendent la vie ensemble agréable et heureuse. Pourtant, dans ce monde, la famille, la vie et l'autorité du gouvernement ne sont jamais respectées comme il faut. Ces choses-là nous permettent de bien vivre ici-bas, mais il y aura toujours quelque chose en nous qui dit qu'il doit y avoir quelque chose de meilleur. Le chrétien sait qu'il y a une meilleure vie qui nous attend au retour du Christ. Oui, la vie ici-bas peut être bien. On peut connaître des moments de joie, de bonheur, de paix. Mais pour la plupart, la vie ici est dure. Et c'est pour que nous restions sur notre faim spirituelle, pour que nous ayons le désir d'avoir quelque chose de meilleur. La vie dans ce monde nous laisse sur notre faim. Et Dieu le promet à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai mis en place, dit Dieu, des structures pour une vie qui est bien, mais il y aura toujours le mal. Mais un jour, il n'y en aura plus. Et là, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il y aura la joie parfaite, complète, la joie dans les familles, la joie d'être avec frères et sœurs, respect de la loi, respect de la vie, où l'enfant va mener le lion et le loup ensemble. Vous voyez le monde que Dieu va restaurer avec le retour du Christ. Mais pour la personne qui n'est pas encore chrétienne, et qui trouve que le monde est un monde de souffrance et de douleur et de mal, malgré les structures que Dieu a mises en place, il faut dire que ce monde est un paradis par rapport au monde qui attend la personne qui est en dehors de Jésus-Christ. On dit souvent que la vie ici, c'est l'enfer. La vie ici, c'est un paradis par rapport à l'enfer. Dieu ici met en place des choses bonnes pour une vie agréable. À l'enfer, Dieu retire tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui rend la vie agréable. Ça n'existera plus en enfer. Il n'y aura pas de vie heureuse, vie de famille, il n'y aura pas de respect pour la vie. Il n'y aura pas de respect pour la justice, mais il y aura de la justice. Et c'est la justice de Dieu. Et si vous êtes encore en dehors de Jésus-Christ, c'est ce qui vous attend. Mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à venir à lui et à recevoir la vie, à faire partir de sa famille. Et être soumis au gouvernement de Jésus-Christ, où Jésus-Christ règne. Jésus-Christ est roi. Amen.